Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2026 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis BenoFX. Et pour cette interview, je suis accompagné de l'ami Kurtz. Salut Kurtz.
Salut BenoFX.
Et pour cette interview aussi, nous accueillons Suzon Bossan. Bonjour Suzon.
Bonjour.
Alors Suzon, on va commencer par le petit fil rouge. Est-ce que tu peux nous dire qui tu serais si tu étais une mécanique de jeu ?
Oh là là, ça c'est dur. Si je serais un engine building avec mon accent tout pourri. Mais le truc où ça démarre doucement et puis après ça accélère et tu capitalises. Voilà, ça.
Un jeu à moteur,
clairement,
avec un gros moteur.
Clairement, ouais. Le moteur.
Si tu étais un thème de jeu.
Waouh, ça c'est super super dur. Parce que j'ai pas de thématique de jeu que je kiffe, je sais pas. Allez, un jeu politique. Parce que je trouve qu'en ce moment, ça serait bien qu'on réfléchisse à ce qu'on est en train de faire là. Voilà un petit message en passant.
On prend. Si tu étais un élément de jeu.
Je serais pas un pion. Je serais pas un pion. Je serais pas un dé non plus parce que j'aime pas trop le hasard. Je serais un truc absolument improbable, pas un timer parce que je sais pas gérer ça. Donc un élément, les éléments de jeu que on peut jamais catégoriser là. Voilà, je serais un truc comme ça.
Ok.
Et si tu étais un jeu ?
Et si j'étais un jeu ? Oh la vache. Eh ben, je serais un jeu. Je serais Civilisation, le vieux, le truc qui est long et qui a bercé toute ma jeunesse et que j'adore parce qu'il y a et de la stratégie et de la négo et voilà et tout en fait.
Pour commencer, Suzon, s'il te plaît, on va te demander de te présenter.
Alors, donc je suis Suzon et moi je suis Serious Game Designer. Ça veut dire que je crée des jeux. Alors moi, pour la formation, parce qu'un Serious Game c'est plus large que ça. Et je fais ça depuis 20 ans, c'est ma 20e année donc de boîte aujourd'hui, enfin aujourd'hui cette année, en tout cas en 2026. Donc je crée des jeux pour les entreprises, pour la formation professionnelle, pour les adultes. Et puis voilà, et j'ai aussi la casquette de l'honneur d'être la présidente du syndicat professionnel français des Serious Game Designers. Voilà, je peux prendre ma respiration.
D'où ce très gros badge.
Oh oui, ce très gros badge jaune. Mais n'empêche qu'il est vachement visible et qu'il est vachement beau. Ouais, j'ai cette... En fait, l'idée, c'est... L'objectif du syndicat, c'est de faire reconnaître cette profession émergente qui est le Serious Game... Enfin, Serious Game Designer. Parce qu'on a des compétences vraiment spécifiques qui se rapprochent de celles d'auteurs et autrices de jeux. Mais on a quand même des compétences autres. Donc voilà.
T'inquiète pas, on a plein de questions là-dessus. Ouais. Mais justement, avant de te les poser, est-ce que toi, personnellement, tu peux nous raconter ton rapport au jeu, comment tu es tombé dedans, comment tu as continué à vivre dans ce milieu du jeu ? Tu parlais de Civ tout à l'heure, de Civilization.
Alors moi, je joue depuis vraiment, mais alors, petite, mon papa a organisé les premiers grandeurs nature en France. Je crois que c'était en 82 ou 83, 1900, hein. et donc moi j'avais 3 ans et j'ai des photos de moi dans le jardin, enfin dans le, avec des orques hein, à côté de moi, des trolls, des gens avec des épées. Et donc voilà, ça c'est pour vous dire que le contexte familial a fait que oui, j'ai baigné dans des trucs qui étaient à l'époque pas très répandus. Tous les étés, ils organisaient une colonie de vacances, c'est les semaines de l'Hexagone, ils organisaient cette colonie de vacances pour adultes joueurs et moi j'étais la seule gamine qui traînait là et qui jouait avec les adultes évidemment. Donc j'ai fait du jeu de rôle, du GN, du jeu de stratégie, du petit jeu, des murders, enfin vraiment tout ce qui était possible, des jeux vidéo aussi. Donc voilà, j'ai vraiment joué depuis toute petite. Aujourd'hui, on a compté, c'est la ludothèque familiale parce que j'inclus celle de mon père, mais on est à 1400 jeux, ce qui commence à être une belle ludothèque quand même. Il y a des jeux auxquels j'ai pas joué depuis très 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 longtemps.
C'est le problème souvent.
mais j'arrive pas à m'en débarrasser, c'est pas possible. Donc voilà, en gros, j'ai joué, j'ai un peu quitté. Alors je voulais mon métier de rêve quand j'étais petite, c'était testeuse de jeux de société et travailler pour un magazine pour tester des jeux et publier mes avis. Mais bon, finalement, on m'a dit, ben non, ça c'est pas trop possible, ça existe pas trop. Donc j'ai fait des études scientifiques. Donc voilà, c'est bien aussi. Hein. J'ai bien aimé. C'était intéressant. Puis mon côté stratégique s'y retrouvait. Et puis si mes premiers jobs, j'ai quand même bossé dans le jeu parce que quand j'avais 16 ans, j'animais le flip. Appartenait. Donc j'étais animatrice sur le flip, j'ai fait ça quelques années, j'étais animatrice avant que j'ai le droit de bosser pour Eurogames, jeu des cartes sur le salon des jeux à Paris. Donc ouais, ben voilà, et puis je m'y suis éloignée et puis j'y suis revenue parce que finalement c'est trop bien. Donc il y a eu une petite incartade où j'ai été vers la recherche, l'agro, tout ce qui était microbiologie et puis je suis revenue au jeu.
Et du coup, ces deux univers, ça fait le serious game.
C'est ça. En fait, j'ai travaillé pour un labo d'analyse, pour l'agro. Et puis, j'ai touché à la formation où il fallait former des gens à l'hygiène, la sécurité alimentaire, voilà, des trucs qui sont pas super intéressants pour eux et qui sont des choses qui sont récurrentes. C'est des formations récurrentes. Les personnes qu'on forme dans ce secteur-là, c'est des personnes qui sont très éloignées de la formation, qui en général ils bossent en usine et donc les études soit c'était compliqué, soit ils en ont pas fait, ils sont debout toute la journée, ils ont des métiers hyper physiques, actifs et on leur dit asseyez-vous, écoutez quelqu'un parler et regardez ce PowerPoint soporifique et c'est horrible. Donc moi j'ai dit je vais pas faire ça, c'est pas possible. Et donc j'ai été voir mon directeur à l'époque en lui disant est-ce qu'on pourrait pas créer un jeu pour faire que ça soit plus chouette en fait, qu'on crée une expérience plus sympa. Il m'a dit oui, il m'a pas laissé le temps de le faire. Donc un an et demi après, j'ai dit allez ok, je vais essayer moi et j'ai monté ma boîte. Et je me suis dit je vais jamais y arriver parce que je suis jeune, parce que ça va pas marcher. Et au final, en un an, j'avais une activité qui était rentable. Alors très honnêtement, c'était donc il y a 20 ans, donc en 2006, les jeux, ils n'avaient pas la cote en entreprise. Donc, en fait, ce que je vendais, c'était des formations en disant, regardez, on peut mettre du jeu. Et le retour, c'était, ouais, c'est vachement cool, il a l'air super ton jeu, il est beau, il existe, on peut le tester, c'est vraiment génial. Mais en fait, on va te prendre une formation classique. On sent que tu as du potentiel parce que du coup, tu fais des trucs différents, mais quand même, le jeu, nos équipes, elles sont pas prêtes. Donc j'ai commencé à faire ça et puis je disais rien, je mettais le jeu quand même. Donc je le vendais pas plus cher, mais je mettais le jeu et ça m'a ça a été mes premiers jeux, ils étaient pour moi et puis au fur et à mesure je me suis rendu compte que ça marchait vraiment bien et honnêtement depuis le Covid déjà un petit peu avant c'était plus accepté mais depuis le Covid ce que ça a changé c'est que les gens ont dit OK, la visio, c'était bien, hein, mais on n'en veut plus. Comment on fait différemment? On s'est aperçu que les formations, elles ne fonctionnaient pas. Donc, comment on forme autrement? Et les jeux, ils font partie de la réponse. Donc, les jeux et la formation, aujourd'hui, c'est hyper facile, quoi. Hyper accepté.
Alors, le serious game, c'est pas forcément clair pour tout le monde, pour tous nos auditeurs. Nous, on a fait un dossier l'année dernière dessus complet. Enfin, complet. On a fait un dossier dessus.
C'est bien.
C'est bien. Ah, oui, c'est bien. Alors, l'an dernier, on a également reçu à nos micros, dans le cadre du FIGE, la fresque du climat et un jeu dans ma classe.
Ouais.
Ce sont des dispositifs ludiques qui sont pensés pour faire réfléchir, apprendre, transformer. Moi, instinctivement, j'ai tendance à les ranger dans la case des serious games. Est-ce que je fais un raccourci?
Oui. la fresque du climat, par exemple, c'est pour moi pas un serious game.
Elle se présente comme ça.
Oui, je sais, mais ça, c'est commercial. Mais c'est très bonne guerre, hein, vraiment, parce que le grand public, c'est compliqué, et puis c'est vendeur, un serious game. En fait, je vais commencer par définir ce que c'est que la fresque du climat, à mon sens. C'est ce qu'on appelle un outil gamifié. La gamification, c'est prendre une activité, quelle qu'elle soit, et rajouter à cette activité des éléments de l'univers du jeu pour augmenter l'engagement dans la dite activité. Alors, maintenant que j'ai dit ça, je le traduis. Concrètement, ça veut dire je fais un GPS, c'est mon exemple préféré. Je fais un GPS et je me dis, j'ai envie que les gens ils viennent utiliser mon GPS. Qu'est-ce que je fais? Je mets un avatar, je mets des points quand vous signalez la police, les travaux, etc. On gagne des points. On sait pas à quoi ils servent, mais on gagne des points. Et vous avez un Waze qui marche super bien, mais on est d'accord que c'est pas un jeu. Mais pourtant, il y a des éléments. On a un avatar, on a des points, on a des... Avant, il y avait des petits bonbons qu'on trouvait sur la route et que nous... Enfin, voilà. Donc, on gamifie, on met des éléments de l'univers du jeu pour faire que les gens ont plus envie d'aller là-dessus. La fresque du climat, on met des cartes, on matérialise quelque chose d'assez abstrait, on fait manipuler, on utilise des cartes. Mais on n'a pas un jeu, en fait. On n'a pas ce qui fait vraiment ce qu'on trouve dans toutes les allées du salon ici. Un serious game, c'est un dispositif qui s'approche le plus possible d'un jeu, donc qui ressemble et qui, a priori, est un jeu avec gagnant ou pas hein, selon les dispositifs si on joue en coop ou autre, mais voilà, en tout cas il y a des règles et on a une liberté dans le cadre des règles, ce qui n'est pas le cas si vous regardez bien d'un dispositif gamifié où il n'y a pas de règles, par exemple. Enfin, si, il y a des règles de pause, mais voilà, on s'entend. Donc j'ai un jeu et je vais ajouter, en fait, lors de la conception de ce jeu, je vais ajouter une fonction utilitaire, un objectif. Cet objectif, il peut être pédagogique, si on parle de jeu pédagogique, mais il peut être, ça peut être un objectif de communication, ça peut être un objectif de sensibilisation, si je descends le curseur sur la formation, et donc on a tous les jeux à message. Qu'on retrouve de plus en plus, on peut avoir des objectifs. Là, on a sur le salon, il y a quelqu'un qui fait un jeu pour travailler sur ses compétences et identifier les compétences qu'on a pour faire évoluer son parcours professionnel. Ah voilà. Quand on rajoute une fonction utilitaire à un jeu, on a un serious game. Et voilà la différence entre gamification et serious game.
Très bien, c'était clair. Et du coup, tu représentes le syndicat des serious game designers. Alors, c'est quoi exactement ce syndicat? Et depuis quand il existe? Pourquoi il a été créé? Est-ce que tu peux nous présenter un peu le syndicat aussi?
Il a été créé il y a à peu près 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. C'est un syndicat pro, donc un syndicat pro, ça vise à faire reconnaître et défendre les intérêts d'une profession. Et donc nous, notre profession, elle n'existe pas encore. On est ce qu'on appelle une profession émergente. Et donc, l'objectif, c'est d'identifier les compétences, de se regrouper entre pairs, d'identifier les compétences communes et qu'est-ce qu'il faut faire pour... qu'est-ce qu'on fait dans notre métier pour définir un référentiel de compétences et faire identifier ça comme une profession. Ce qui, derrière, permet d'avoir soit des formations dédiées, soit, à défaut d'avoir des formations dédiées, d'avoir... des idées de qu'est-ce que je dois travailler pour pouvoir faire ce métier et de se dire que demain, un jeune pourra se dire « Ah, j'ai envie d'être serious game designer, qu'est-ce que je fais et quel domaine, etc. » Parce que même si on fait tous des jeux qui ont une fonction utilitaire, on fait pas tous de la formation. Donc quels sont les points communs, comment est-ce qu'on travaille, c'est quoi les process de création. Il y a quelques différences, mais au final, on se retrouve assez bien. Là, on avance bien sur ce domaine-là et on voit bien qu'il y a des points très très saillants. Et on est beaucoup en rapport avec la SAGE, évidemment, sur l'autorialité, puisque on va rappeler quelque chose d'évident, mais on ne fait pas de plagiat de jeux existants. On crée des dispositifs, des jeux qui sont originaux, et donc on a de l'autorialité sur nos jeux.
Oui, adapter un jeu avec une thématique professionnelle entre guillemets ne fait pas de fait. C'est pas un serious game, quoi.
Non, alors ça peut, et j'aime bien prendre en ça l'exemple de Top Ten Pro. On a un jeu grand public, Top Ten, qui marche super bien. Et on se dit qu'effectivement, pour faire réfléchir en formation sur peut-être, je sais pas, des discriminations, on pourrait mettre une question qu'on va graduer si je veux travailler sur le RH. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti Top Ten Pro.
Et pour le coup, pour avoir interviewé plusieurs fois Mathieu Despnous, il vient aussi lui de la formation et du serious game depuis.
Ouais.
Depuis très longtemps. Ça a peut-être été un des premiers à vraiment faire.
Mathieu, je l'ai rencontré quand j'ai voulu créer ma boîte en 2005 peut-être, avant la création. Je l'ai rencontré, j'en ai ras-le-bol de mon jeu. Et lui, il en était à ses débuts de création de boîte. Je ne sais pas en quelle année il a créé, mais 2004-2005, je pense, un truc comme ça. C'était vraiment... Et on s'est bu un café en se disant toi tu fais quoi, moi je fais ça, j'ai envie, et ça a été une des rencontres qui moi a été déterminante sur en fait il peut et je peux et aller au diable j'y vais quoi. Donc en fait on est plusieurs, Cyril Blondel c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui viennent de la formation, de l'enseignement, dans le monde du jeu de société.
Et vous êtes nombreux actuellement dans le syndicat ?
On est une petite centaine.
Ok, quand même.
En fait, alors, ça se développe énormément. C'est comme tout secteur qui est porteur. On a des gens qui arrivent. On a aussi beaucoup de gens qui sont tout frais, tout jeunes, tout neufs, qui ont créé un jeu ou qui sont en train de créer leur premier jeu. C'est pas du tout, c'est pas encore très établi. Donc c'est vrai que pour travailler sur les compétences, on s'appuie plutôt sur ceux qui ont de l'expérience. Mais on est assez nombreux et on voit bien que ça fait beaucoup réfléchir. Et on a de grandes questions, enfin, au sein du syndicat aussi sur l'éthique. Donc qu'est-ce que c'est que des jeux originaux? Parce que on a été beaucoup. Je pense que maintenant c'est bien clair que les serious game designers font des jeux originaux et qu'on est des auteurs autrices. Mais au début, on avait quand même beaucoup l'étiquette de on fait du plagiat. Et je vais pas nous défendre, mais en tout cas séparer peut-être un métier qui est moins connu. Quand on est formateur formatrice aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les ludopédagogues. Les ludopédagogues, ce sont des gens qui vont utiliser en formation le jeu, qui sont des animateurs de formation, des formateurs formatrices, mais qui vont pas concevoir de jeu et surtout qui ont pas d'expertise là-dedans. Donc comme ils ont envie et qu'ils voient bien que le jeu c'est utile, eh ben ils vont prendre des jeux qui vont détourner, transformer, en disant regarde, c'est pas la même chose, mais bon, tu connais les règles de tel jeu, c'est pareil. Et là, pour le coup, des fois, on a des bons usages, des fois, c'est pas terrible. En tout cas, il n'y a pas de reconnaissance. Alors moi, je milite beaucoup pour ça, la reconnaissance de l'autorialité, de la chaîne de valeur qui permet ça, en fait. Donc, on est en train d'essayer de trouver des systèmes pour rémunérer les auteurs, autrices, illustrateurices, éditeurices. Je vais arrêter tout ça, ce listing. Mais en tout cas, cette chaîne de valeur, quand c'est utilisé en formation... Et les ludopédagogues, c'est des gens qui font avec ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ont. Et du coup, les jeux grand public, c'est eux qui vont utiliser ça. Mais c'est un autre métier.
Et là, justement, ça tombe bien que tu en parles. À ce propos, je voulais te faire un aveu. Cette année, dans mon boulot, on nous a fait jouer à une version adaptée d'un jeu d'ambiance en formation. Mm-hmm. J'ai détesté. J'avais vraiment l'impression que le jeu était plaqué sur l'objectif.
Ouais.
Clairement, d'autant plus que touche un peu en jeu quand même, donc ça se voyait. Alors, est-ce que ça arrive souvent ou est-ce que plus généralement, est-ce que le serious game, il devient contre-productif?
Alors, il y a des moments où on se pose toujours la question de pourquoi est-ce que le jeu, c'est la bonne modalité? Et clairement, c'est pas toujours le cas. Moi, il y a des situations, j'ai très clairement en tête une structure qui m'avait contacté pour créer un jeu sur ils avaient des problématiques, c'était une asso qui devait faire du suivi patient suite à des arrêts, des AVC, etc. et qui arrivait pas à avoir vraiment ce suivi sur le long terme et en fait, ils m'ont dit on veut un jeu. Et en analysant, en fait, ce qui fonctionnait pas, je leur ai dit mais c'est pas un jeu quoi, commencez par faire ça ça ça. Et quand vous aurez fait tout ça, ça va aller déjà beaucoup mieux et peut-être on fera un jeu. Mais là, si vous faites un jeu, vous allez mettre un pauvre paradrap sur un truc, ça va rien marcher. Vous allez dire c'est nul. Bon, ils ont fait un jeu avec quelqu'un d'autre que moi, mais. Pour moi, c'est la première question, est-ce que c'est la bonne modalité? Deuxième question, c'est est-ce que le jeu, il est vraiment pertinent? Est-ce qu'il a été conçu pour? Est-ce qu'il a été bien choisi? Ça, c'est la deuxième chose, c'est que oui, je peux décider que le jeu c'est bien, mais et puis après il y a des usages. Un jeu dans le recrutement. Par exemple, je vois pas trop comment ça peut être un jeu. Alors, ça peut être un jeu pour l'animateur, pour l'entreprise qui décide de faire. Mais si je vous fais faire un escape game pour savoir si je vous recrute ou pas, pour moi, ça va être un jeu. Pour vous, c'est un entretien de recrutement déguisé en truc et vous allez pas du tout être, vous allez être sous pression, ça va pas du tout le faire.
Et à partir du moment où l'enjeu est dans la vraie vie,
quand il y a un enjeu qui est vraiment, et qui est fort, là, on est sur un recrutement. Donc, à la limite, perdre 10 balles, pourquoi pas, mais jouer son poste, alors qu'on a besoin de faire bouffer sa famille, c'est pas forcément, le rapport est pas le même. Et donc, toi, t'as vécu, une autre situation qui, pour moi, dans l'usage du jeu, est hyper répandue, mais problématique, c'est le team building. Le team building, si on veut que ça marche, ça doit être une conséquence indirecte du jeu. Je m'explique. Si je vous fais jouer pour une formation, pour apprendre à faire un podcast, par exemple, on a créé un jeu, vous en avez pas besoin. Mais néanmoins, admettons que ce jeu existe et que je vous fais faire ce jeu pour, vous allez vivre une expérience commune, vous allez communiquer entre vous et donc vous allez être, évidemment, la cohésion va être meilleure parce que vous aurez vécu un truc commun. Mais c'est le deuxième effet qui se coule. C'est pas l'objectif du jeu. L'objectif du jeu, c'est vous apprendre à faire un meilleur podcast. Si je mets le team building et la cohésion comme objectif de jeu, ça va changer la donne. Je vais vous dire que vous allez jouer parce que je veux que vous soyez plus potes. Mais si vous vous aimez déjà pas, qu'est-ce que va faire le jeu ? Jouer avec des gens que vous détestez. Vous voyez la conséquence, c'est le moindre truc, vous engouffrez dans la brèche, vous dégommez l'autre, vous faites toutes les critiques possibles et en fait vous allez alimenter le côté je déteste machin, en plus je suis obligé de jouer avec cette personne, enfin c'est contre-productif.
Et quand c'est dans des cadres professionnels comme ça justement, est-ce que le côté obligatoire ne peut pas des fois tuer justement le jeu et enfin si les personnes se sentent obligées de participer, il y a ouais. Reculons.
Moi, c'était ça. Hein, c'était ça. Non, mais honnêtement, je suis pas là pour jouer, je suis là pour travailler.
C'est bien, t'as toutes les idées reçues sur le jeu. Pendant des années, en fait, le jeu, il a été opposé au travail. Le jeu et le travail, c'est une opposition. Donc, c'est les lumières qui ont essayé de retravailler. Enfin, ça a fait un peu évoluer, mais c'est quand même pas trop ça. Hein. Jeu et travail, c'est opposé, alors que c'est pas du tout ça. Hein. L'opposé du jeu, c'est pas l'opposé du travail, c'est pas le jeu. Et puis, c'est aussi associé au côté enfant. Le jeu et les enfants. Alors nous, bien sûr, dans cet environnement-là, on voit bien que non, c'est pas que les enfants, mais quand même dans la tête des gens. Donc ça, c'est deux résistances qui sont très fortes. En général, il y a deux options. Enfin, quand on veut définir un jeu, ça se définit aussi par la liberté de jouer ou pas. Et donc par la. Alors, moi, je préfère remplacer par la décision de jouer. C'est pas tout à fait la même chose parce que je peux être dans un cadre où je ne suis pas totalement libre, mais où je décide de jouer. Moi, par exemple, avec mes enfants, quand ils étaient plus petits, maintenant ils me battent. Hein. C'est horrible, quoi. Mais bon, mes enfants, je décidais de jouer avec eux, mais si j'avais été libre, je l'aurais pas décidé. J'aurais pas joué parce que je me faisais suer, que c'était pas des jeux super, voilà. Mais faut bien leur apprendre. Donc c'était bien une décision. Donc cette décision, elle peut être, j'ai envie de faire partie du groupe, j'ai envie de m'intégrer. Pour plein de raisons, je peux décider de jouer, même si c'est pas, si j'étais libre, je ne jouerais pas. Donc ça, c'est le premier point. Et pour compenser le côté liberté, ben on a deux options. La première, c'est de permettre aux gens d'observer la situation et de ne pas jouer, mais de profiter de l'observation de cette situation de jeu et des décisions prises par les autres joueurs pendant le jeu. Donc ça permet de garder cette flexibilité et on aurait pu proposer d'observer. Alors des fois, dans le team building, ça vaut pas. Mais parfois, quelqu'un qui observe, qui prend des notes et qui est guidé dans son observation par un formateur ou une formatrice, là, pour le coup, ça devient efficace. Deuxième option que moi, j'utilise beaucoup, parce que j'ai très peu de résistance au jeu, c'est de poser un cadre extrêmement sécurisant, parce que souvent, les rejets, ils sont justement sur « j'ai pas envie de montrer à mes collègues, j'ai pas envie de perdre, j'ai pas envie… » Enfin, donc. On pose un cadre extrêmement sécurisant, rassurant, les gens sont en confiance. Et puis, après, c'est toujours de la confiance, c'est que je vais rassurer, je vais poser une légitimité en tant que pédagogue sur, en fait, c'est un jeu, parce que ça a l'apparence d'un jeu, mais c'est le meilleur dispositif que j'ai trouvé pour te faire avancer sur le sujet. Et donc, fais-moi confiance, c'est un outil qui va te permettre d'avancer. Et là, on travaille sur le... Ben ouais, c'est pas du travail. En fait, si, parce que je l'ai choisi, parce que je sais pourquoi, je peux te l'argumenter. Et en général, moi, j'ai pas de résistance. Un cadre sécurisant et une légitimité sur la PEDA, et ça passe tout seul. Mais l'option, c'est de mettre les gens en possibilité d'observer.
Alors, quand tu rencontres malgré tout des résistances,
Tu
les fous dehors.
Non, c'est pas vrai.
Super solution. Qu'est-ce qui bloque ? Le problème vient du jeu, de la facilitation, du contexte, ou est-ce que c'est juste l'obligation qui bloque ?
Alors, ça peut être l'obligation, mais c'est assez rare. Hein. Dans ce cas-là, c'est pas. En fait, c'est qu'on peut rien. C'est que il est en résistance sur. D'ailleurs, ouais, le principe, mais surtout finalement la hiérarchie et le pourquoi on lui demande de jouer. En fait, c'est donc ça, on peut en parler un peu, mais souvent on peut pas débunker, c'est qu'il y a un problème de hiérarchie dans l'entreprise.
Ouais, voire même
de
que la formation est subie et que c'est pas une formation qui. Voilà, ouais. qui
mais
est voulue.
Mais ça, on a toujours des leviers quand c'est la formation subie, c'est que souvent ça leur apprend quand même des choses pour eux et qu'on n'est pas obligé de leur dire, mais voilà. Donc une vraie possibilité, c'est de dire aux gens, mais moi je suis pas là pour vous contraindre, je vous emmène là où vous avez envie d'aller et là où on m'a demandé de vous emmener, mais on est raccord là-dessus. Si vraiment vous voulez pas, je plaisante quand je dis je les fous dehors, mais en fait c'est ok s'ils se forment pas. On peut pas former quelqu'un contre sa volonté, ce n'est pas possible. Donc bah voilà, quelqu'un qui s'en irait, ça me choquerait pas. Après sur les résistances, ça peut être un jeu qui est mal fait. Parce qu'un jeu qui n'atteint pas ses objectifs, qui est mal conçu, et là, pour le coup, c'est notre boulot de Serious Game Designer, ben, honnêtement, moi, si on me fait jouer 2 heures et que la conclusion du jeu, c'est « Regardez, c'est quand même vachement mieux quand on se parle », ben ouais, mais je savais déjà avant que c'était mieux quand on communiquait que voilà. Donc j'ai perdu 2 heures. Et donc ça, ben oui, ça crée des résistances parce que les jeux mal conçus, ça vient. Voilà, là on a l'impression de perdre son temps. Et puis non, je pense que c'est essentiellement des mauvaises expériences qui vont engendrer ça. Mais honnêtement, en étant l'animation. L'animation, elle peut juste renforcer finalement une résistance qui est déjà existante ou ne pas réussir à lever cette résistance. Un jeu, ça se porte, en tout cas en formation, c'est autant la qualité du dispositif que la qualité de l'animation. Mais ça vaut avec le jeu comme avec n'importe quoi. Un PowerPoint, à la base, c'est a priori chiant, mais si vous avez quelqu'un de passionnant, bah votre PowerPoint, il va passer tout seul, quoi. Donc c'est l'animation, elle peut sauver un mauvais jeu. Ça, c'est sûr. Elle peut sauver un mauvais serious game, mais ça fait pas tout. Il faut vraiment les deux, quoi.
Et ben justement, à contrario, qu'est-ce qu'un jeu permet qu'un format classique ne permet pas? Parce qu'effectivement, après, la qualité fait beaucoup, peu importe le média, peu importe le support. Mais qu'est-ce que le jeu, tu l'as un petit peu évoqué déjà au début, mais qu'est-ce que le jeu permet qu'un format autre classique ne permet pas?
Alors, souvent, on parle de droit à l'erreur. Moi, je trouve plutôt que c'est si on le fait bien, si le jeu est bien conçu, qu'il y a un bon cadre, en fait, ça donne la possibilité d'expérimenter des choses qu'on ne s'autoriserait pas à expérimenter, mais pas à cause du droit à l'erreur, parce qu'on est dans un tunnel d'habitude et de fonctionnement attendu, de masque social, le jeu, il nous met, si je vous mets au lieu de vous, je fais une formation commerciale et si à la place de me vendre un stylo et de faire une simulation de vente, je vous dis, ben, vous êtes des Indiens et on va fumer le calumet de la paix, vous allez essayer de gérer votre territoire. En fait, ce que vous allez faire, c'est bien de la vente, c'est bien de la négo, mais c'est tellement hors contexte pour tous les gens qu'ils vont enlever tous les attendus et ils vont tester autre en fait, chose. Ouais. Exactement, ils vont tester autre chose. Et ça, pour le coup, bah, c'est très intéressant à analyser et on va ensuite aller former sur là où ils sont. Ça me permet d'aller sur ce point-là, qui est un point qui, pour moi aussi, est hyper important, c'est que le jeu, il permet de l'individualisation. Là où on a on se tord la tête, on se fait des nœuds au cerveau pour essayer de faire les ingé pédas, hein, j'entends, à faire des apprentissages individuels qui permet à machin qui est au niveau A et à truc qui est au niveau C de progresser chacun pendant le même temps de formation. Ben un jeu, ça va nous confronter à nos propres difficultés, notre propre niveau, et donc on va chacun avancer là où on en a besoin. On va se questionner là où on en est, et donc ça, cette individualisation, elle est hyper intéressante. Dernier argument, et j'en ai plein d'autres, mais si j'en mets 3, c'est déjà pas mal. C'est qu'on, ça permet souvent d'avoir une vision, d'avoir des actions dont on peut mesurer les conséquences, parce que un jeu, c'est un modèle réduit d'un écosystème. Cet écosystème simplifié, quand on agit dessus, on voit des conséquences. Dans la vraie vie, quand j'agis sur le management, ben je vois pas les conséquences parce que il y a trop de facteurs, j'ai du mal à identifier est-ce que c'est ça qui a agi ou autre chose. On est sur des temps longs, là on est sur un temps court avec une simplification qui permet d'avoir une analyse et une prise de conscience des actions et des conséquences de chaque chose.
Ouais, on recevait Envie en jeu ce matin et ouais. on a parlé de l'importance du débriefing aussi après l'action de jouer, que c'était autant important le débriefing et de discuter de ouais. ce qui s'est passé, de qui a fait quoi, autant que l'action de jouer en elle-même.
En fait, moi j'aime bien utiliser capitalisation et pas débriefing, parce que capitalisation, on voit, débriefing, on parle de ce qui s'est passé. Capitalisation, on s'appuie pour progresser, et je trouve que c'est plus parlant comme mot, mais j'avoue, des fois je dérape, je dis débriefing, mais... Un jeu tout seul, on sait, même un serious game bien conçu, on a de plus fortes probabilités d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Mais sans cette phase de capitalisation, on n'est jamais certain que les gens ont fait ce travail réflexif et ont appris des choses. Donc, bien sûr qu'il faut ce temps d'analyse, de retour sur l'expérience. Et puis, il y a quand même un travail après qui va être de transférer ce qu'on a vu dans le jeu dans notre réalité et notre quotidien professionnel, si c'est une formation professionnelle, mais dans la vie de tous les jours, peu importe le sujet de la formation. Donc ce transfert, il est important et oui, il faut cette phase de capitalisation après.
Est-ce que toi, tu as déjà constaté que le jeu, dans le cadre du travail, justement, le serious game, est-ce que ça libère la parole? Donc, est-ce que ça, des fois, ça révèle des tensions au sein d'une organisation? Est-ce que tu remarques une différence entre les employés et les managers? Ce genre de choses?
Alors, c'est sûr que il faut faire, par exemple, si on fait travailler des managers, des salles, des employés, enfin, N-1, N+2, par exemple, eh ben, il peut y avoir des choses qui rejaillissent dans le jeu. Donc, c'est parfois, quand on veut travailler là-dessus, c'est génial. Mais quand c'est pas l'objet de la formation, il faut y faire attention et concevoir quelque chose qui permette à chacun de d'y trouver son compte et de pas être en danger. Parce que clairement, ben, on peut mettre les gens en difficulté. Et je prends le cas d'un quiz, hein, parce que c'est le jeu. Les gens qui savent pas faire des jeux, ils font des quiz. Alors attention, je ne dis pas ça pour tous les gens qui font des jeux de quiz, mais en formation, c'est vraiment finalement le premier niveau de gamification, c'est je fais un quiz, quoi. Et ben, imaginez, je suis manager, hein, je suis chef. Et on me met au même niveau que tout le monde pour répondre à un quiz. Ben, si je sais pas, je peux me sentir super mal avec les personnes avec qui j'étais. Et donc, il y a vraiment ce côté, oui, ça peut créer, en tout cas, des discussions, c'est sûr. Et quand c'est créé pour, ben, ça peut être vachement intéressant. J'ai des copains qui utilisent Galerap, enfin, qui ont utilisé, ils l'ont pas refait. Ils ont testé. Ils ont utilisé Galerapagos en entreprise. Donc, Galerapagos où on peut, buter son voisin parce qu'il n'y a pas de place sur le radeau. Eh bien, ça a créé des très bonnes discussions. Le risque, en fait, c'est qu'on soit raccroché à « tu m'as buté dans le jeu et donc je peux pas te faire confiance dans la vie. » Oui, non, mais je peux pas te faire confiance dans la vie. Or, mais c'est les règles du jeu. Et ça, pour le coup, c'est intéressant. Moi, je suis quelqu'un de... Typiquement, dans la vie, je suis plutôt quelqu'un de très... très éthique, très sincère. J'essaye de pas planter de couteau dans le dos des gens. Je suis vraiment assez droite là-dessus. Et par contre, si on me met dans un jeu où c'est l'objectif, ben en fait, je joue. Donc, je bute les gens qu'il faut buter. mais dans la vraie vie, je ne le ferai jamais. Je serai en train de paniquer hein, dans ma vie perso si jamais ça m'arrive. Je sais plus comment gérer ça, quoi. Donc c'est vraiment, il y a cette distinction que beaucoup de gens ne comprennent pas, et le rapprochement dans les entreprises, il est vite fait. Donc il y a des points de vigilance sur dans quelle situation on met les gens. Il y a des jeux qui sont intéressants, en tout cas en serious game, d'amener des jeux qui font réfléchir sur le respect de la règle. Il y a quelques années, j'animais Mytho. En entreprise.
Pour rappel, c'est le jeu où il faut tricher, justement.
C'est le jeu où il faut tricher. Mais du coup, la triche, vu qu'elle est dans les règles, c'est pas de la triche. Ouais. Et donc, c'est hyper intéressant pour questionner le rapport au cadre et le rapport aux règles. Et donc, dans l'entreprise, comment chacun respecte le cadre, comment on s'autorise ou pas. Et les discussions là-dessus sont géniales sur qu'est-ce que ça nous fait. Parce qu'il y a des gens pour qui c'est impossible d'aller planquer une carte, quoi. Et si on me voit, et qu'est-ce qui se passe, et voilà. Donc oui, en tout cas, ça peut vraiment générer des discussions hyper intéressantes. Et là, pour le coup, je suis en train de vous donner des jeux grand public utilisables. Oui. Mais on va dire que là, aujourd'hui, de notre réflexion, les conseils que nous, on donne au niveau du syndicat, c'est de dire que quand on ne touche pas au jeu et à sa manière, à ses règles, à son matériel, qu'on l'utilise vraiment tel quel, c'est que, en fait, OK, c'est un usage possible, et on est en train d'essayer de voir. Moi, là, je suis en train de monter une structure qui permet de rémunérer, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, d'essayer d'avoir des licences pour les jeux grand public, en se disant, je veux utiliser Mytho, c'est un exemple, hein, mais je veux utiliser Mytho, je peux aller avoir une licence qui est soit gratuite, soit payante, mais qui me permet de dire, j'ai le droit de l'utiliser en entreprise, dans un cadre qui n'est pas le cadre privé, familial, voilà, pour rémunérer la chaîne de valeur.
Alors là, je voudrais te poser une question qui peut fâcher.
Voilà, attention. Je suis hyper agressive.
Si tu veux pas répondre ou quoi, on pourra l'enlever après. Il y a pas de souci, t'inquiète pas. Est-ce qu'on pourrait envisager une utilisation perverse et que le jeu soit utilisé comme mode de contrôle?
Mais bien sûr. Et c'est, alors, bien sûr. Et en même temps, il y a des petits garde-fous. Je dirais que c'est d'autant plus vrai pour la gamification. Parce que, quand on gamifie un dispositif, on ne dit pas.
Tu reprendras ta phrase là, quand on.
Ayoub Belbachia du centre Aimé Le Gall est à l'accueil, au moins un. Merci.
C'est bon? Donc, je dirais que c'est d'autant plus vrai pour la gamification. Quand on fait de la gamification, en fait, on ne. en général, on ne dit pas son intention. On ne dit pas qu'on veut engager dans l'action. C'est utilisé par le marketing depuis tellement longtemps que voilà. Donc aujourd'hui, on appelle ça gamification et mais on est très proche des nudges. On est voilà. Donc oui, quand je gamifie, je vous dis pas que je veux que vous alliez au bout du parcours machin et que le parcours client, je veux que tu ailles jusqu'au bout de ton acte d'achat et que je le dis pas. Et donc c'est implicite. Et ce qui est implicite, pour le coup, c'est très manipulatoire. Donc là, oui, les dérives, elles sont pour moi très fortes et il y a un problème, enfin, en tout cas des questions éthiques autour de est-ce que je gamifie pour mon propre intérêt de moi qui conçois et ai besoin de gamifier l'activité ou est-ce que je gamifie dans l'intérêt des autres. Quand j'utilise du jeu en formation, l'avantage, c'est que le serious game, il est là et qu'on a l'objectif de la formation. On sait pourquoi on fait ce jeu. On sait qu'on est là sur une formation pour du marketing justement ou pour apprendre à poser une chaudière. Mais résultat des courses, j'ai moins d'implicite, c'est expliciter le pourquoi on joue. Et donc les serious games, pour moi, il y a cette petite protection. Maintenant, les jeux à message, bah oui, qu'est-ce qu'on passe quand et clairement, on passe des messages. Si je vous fais jouer, il y a un super travail de Romain Pichon-Sainte qui traite des éco-jeux, donc des jeux sur l'écologie, où finalement. Quand je fais un jeu sur l'écologie, sur comment, je vais aussi montrer qu'il y a la manière de gagner, c'est aussi finalement implicitement la bonne manière de gérer le climat. Et donc je passe ce message. Donc oui, évidemment les jeux, ils ont une influence, ils sont politiques et pas que les serious games. Donc oui, ce côté influence, ce côté politique que porte le jeu de société ou en tout cas sociétal, pour moi bien sûr que c'est se poser les questions, enfin on n'est pas habitué à analyser le jeu comme une œuvre culturelle. Enfin, si, nous si, peut-être, mais peut-être que les gens qui écoutent sont pas... Mais éduquer nos enfants à avoir une lecture de c'est quoi les personnages qui sont représentés sur le jeu, est-ce qu'on a de la diversité, est-ce que c'est inclusif, est-ce que... bien sûr, en fait. Et là, je prends qu'une petite partie, mais bien sûr, les messages politiques, les messages environnementaux, les messages... Enfin, il y en a, et il y en a donc dans les serious games. Moi, je vais lutter. Enfin, je termine juste, mais je sensibilise mes clients. Je suis féministe et donc je fais très attention à comment est-ce qu'on représente, comment est-ce qu'on a de la parité, etc. Des fois, j'essaye de pas mettre de personnages comme ça. Les gens se projettent, ne sont pas obligés d'incarner un rôle masculin ou féminin, mais chacun peut être ce qu'il veut. Et c'est vraiment des fois les clients ils sont pas prêts en fait, ils avaient juste pas pensé. Donc ça c'est mon filtre. Enfin moi je fais hyper attention à ça, mais en fait il y a tellement de choses que des fois on passe à côté. Quand on fait un jeu sur la mobilité et que on met le vélo, mais quand on fait un jeu sur complètement autre chose, est-ce qu'on mettrait pas le vélo à la place d'une voiture? Parce que bien sûr quand on met la voiture, on donne un filtre, un angle, un prisme de lecture que la voiture c'est le standard. Hein. Est-ce qu'on peut mettre autre chose? Donc tout ça c'est des réflexions et moi je trouve que j'invite tous les gens qui créent des jeux, que ce soit des serious game designers ou pas, parce que c'est des jeux grand public, on a une réflexion à avoir sur chaque élément du jeu, sur quel message on passe, quoi. Et oui, ça influence du coup. Et donc, rebouclons avec le début. Eh bien, des jeux sur la politique qui aident à réfléchir et à avoir un esprit critique, c'est bien.
Et au contraire, faut se méfier aussi un peu des messages trop faciles, ouais, ou des choses un peu cachées. J'allais juste dire que ça, c'est quelque chose, je trouve, dans les jeux vidéo. Il y a eu déjà cette réflexion et il y a eu plein de jeux indépendants, etc., qui ont exploré ce côté de tu joues et puis au bout d'un moment t'as le switch de tu comprends ce que t'es en train de faire.
T'as un twist,
tu comprends ce que t'es en train de faire et tu dis mais mon Dieu, je suis en train de faire des trucs horribles en fait. Enfin, voilà.
Il y a eu dans les jeux de société. Ouais. Il y a un jeu, j'oublie tout le temps son nom, mais il y a un jeu sur les où on gère des trains.
Train.
Oui.
Ouais, c'est ça.
Train, ouais.
Et ben, effectivement, on se rend compte que finalement, ce qu'on est en train d'optimiser comme chargement, ben, ce sont des juifs et que. Ouais. Et oui, donc il y a eu, mais c'est moins fréquent.
C'est moins fréquent.
Mais ouais. C'est intéressant de se poser la question et d'où l'importance de capitaliser derrière et d'avoir un regard critique. Mais on devrait éduquer nos enfants à dire, mais voilà, là, t'as joué, c'était super cool. Du coup, t'as compris quoi? Et c'est quoi les messages du jeu et d'avoir, mais ça vaut pour tout, hein. Pour ouais, les clairement. Jeux comme pour autre chose.
Et puis c'est un peu plus compliqué. Dans le jeu de société, dans le sens où le jeu vidéo se diffuse beaucoup plus facilement. Enfin, un petit éditeur indépendant peut le mettre en téléchargement. Enfin, l'accès aux médias est plus facile que. On peut très bien mettre des jeux en gratuit, en do it yourself, mais il y a un investissement de la personne qui veut y jouer plus important, de fabriquer son matos, etc. Enfin, c'est pas tout à fait le même mode de diffusion aussi.
C'est vrai.
Super. Je crois que tu nous as déjà un petit peu parlé de ça, tu nous as cité quelques jeux du commerce qui peuvent être utilisés justement dans le cadre de formation ou dans le cadre de l'entreprise.
En tout cas.
Qu'est-ce qui fait qu'un jeu du commerce ne suffit plus et qu'il faut justement aller vers dans quel cas il peut suffire et qu'est-ce qui fait qu'il ne suffit plus et qu'il faut aller vraiment vers quelque chose de sur mesure pour certaines activités ou certains thèmes?
Un jeu grand public, quand on joue à un jeu, on mobilise des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Sauf que, en général, si je veux développer des compétences, les savoir-être, je vais les trouver dans des jeux existants. J'ai pas toujours besoin d'aller créer un truc, sauf si mon savoir-être doit être très adapté ou traité d'une telle ou telle manière, ou que je veux faire un truc corporate et ok. Mais donc les savoir-être, si je dois gérer la pression temporelle, si je dois gérer le stress, si je dois manager, communiquer, négocier, tout ça je le trouve dans plein de jeux grand public. En revanche, si je dois apprendre à peindre un mur, c'est plus rare de le trouver dans un jeu grand public. Donc oui, là, moi, j'ai un de mes derniers jeux, c'est un jeu sur les économies d'énergie pour les bateaux de pêche.
C'est pointu. Oui.
Ou si je travaille sur la recherche universitaire et le dévonien et les catalyseurs. Honnêtement, on n'est pas dans des jeux où, en tout cas, on va pas aller suffisamment loin, même si le thème peut être abordé, on n'y est pas. Donc, moi, je vais travailler essentiellement soit sur des connaissances, soit plutôt, et moi, c'est ce qui m'intéresse, des compétences techniques très spécifiques. Et donc là, oui, on développe des jeux, en fait.
Très clair.
Bah ouais. Mais c'est mon métier, peut-être.
On dirait.
Non, mais c'est intéressant parce que, alors si je peux rebondir, on se pose quand même de plus en plus de questions sur les serious games. Alors, parce que ça se développe, mais aussi, on le voit, on le rentre dans les universités. Donc, il y a un DU à prendre par le jeu qui existe. Il y a, moi, j'interviens dans le master en sciences du jeu, par exemple, sur qui est présent d'ailleurs sur le FIGE.
On les a reçus l'année dernière, je crois.
Ouais. Et où, effectivement, on voit bien ça. Le serious game, le master en sciences du jeu, il est généraliste, en fait. On fait plein de choses. Mais d'avoir cette ouverture sur les jeux, les serious games, moi je l'ai passé ce master et il y avait les serious games, c'était traité jeux vidéo. Aujourd'hui il y a jeux vidéo et jeux de société, jeux analogiques puisque moi je le porte. On voit bien que ça infuse partout. Il y a Caen qui propose des choses sur l'utilisation de l'université de Caen, le CEMU sur l'usage des jeux. Enfin, on voit bien que ça fourmille. Poitiers qui ouvre une formation aussi. Enfin, voilà, c'est chouette et ça se structure. On voit bien le métier du jeu est en constante évolution. Et le fait d'avoir des universités qui posent les choses, je trouve que c'est hyper important de travailler sur nos objets. Alors l'objet jeu et puis qui est pas tant que ça étudié malgré tout. Donc c'est important en fait. Je pense d'avoir ces chercheurs qui ces chercheuses qui vont vraiment documenter, analyser, regarder les effets, regarder nos métiers, comment on crée, parce que ça donne j'aime pas le côté légitimité, mais ça structure en fait notre fonctionnement. Et ça, c'est vraiment intéressant.
Clairement.
J'ai envie de te poser une question, de faire un tout petit pas de côté par rapport à ce que tu disais un petit peu avant. J'ai envie de m'adresser à l'autrice de jeux générale féministe. Le masculin l'emporte sur le féminin. Les règles du jeu disent les joueurs. il y a certains éditeurs qui ont décidé de dire les joueuses. Il y en a certains qui ont décidé de botter en touche. Il y a certaines personnes, des podcasteurs, qui disent les joueuses en permanence, d'autres qui se contentent des joueurs. Pour toi, qu'est-ce qui serait là une solution qui mettrait tout le monde d'accord?
Mes derniers jeux, je les ai faits. Alors, c'est des grandes questions, hein, parce que moi, je me les pose. Alors, j'ai fait des aléatoires GAFI, j'ai fait beaucoup de féminins, mais ça passe pas toujours. Là, j'ai fait des jeux pour le BTP, autant vous dire qu'on m'a dit, ben non, c'est pas notre sujet. Si on écrit au féminin, on va se faire tacler, les gens ne vont ne parler que de ça. Donc, nous, on veut qu'ils parlent du jeu, donc non, on fait du masculin. Ça m'a fait mal. Mais voilà, en tout cas, de se dire, finalement, c'est une vraie question. Et là, ce que j'arrive à faire aujourd'hui, c'est des règles. Alors déjà, je fais des règles vidéo parce que moi, je vais faire des jeux que je ne vais pas animer moi. C'est d'autres personnes qui vont les animer. Et on sait que c'est pas forcément tous des joueurs et des joueuses, donc c'est pas facile d'expliquer les règles et donc c'est un frein, ça. Donc moi, je mets des règles en vidéo et les règles, elles sont rédigées. On s'adresse aux joueurs et on dit tu. Ou à la joueuse du coup, et on dit tu, parce que le tu, eh ben, il n'y a pas de féminin masculin. On peut mettre du vous, mais voilà, le tu, et on trouve des formulations épicènes où il n'y a pas besoin de point médian. Ou voilà. En général, je mets pas de point médian. D'ailleurs, je double. Vous avez vu, je dis auteur autrice, voilà. Mais je le fais le moins possible. Donc la rédaction est un peu casse-tête, mais avec du tu et une formulation bien choisie, c'est très très rare que j'ai besoin de doubler. Et ça marche. Et ça marche aussi pour les contenus des jeux. Quand je vous disais, il faut choisir un personnage ou pas. Bah finalement, on fait en général. Moi, j'essaye de faire que ce soit le joueur qui incarne son personnage, et du coup ça résout tout le problème, on n'a pas besoin de nommer. Donc c'est plein de petits tips, mais ça, on y arrive assez souvent et on sensibilise nos clients, parce que moi je vois des gens qui me disent ah ouais, on avait des métiers à faire, c'était chiant. Bah, je dis mais on fait moitié homme, moitié femme dans les métiers, c'est ok. Alors, ça, j'ai un oui. Et après, moi, je choisis les métiers, donc j'inverse toutes les idées reçues et je mets des soudeuses et des secrétaires avec une belle représentation masculine. Et voilà. Mais en tout cas, le tu, ça marche bien.
On arrive vers la fin de l'interview. Si tu devais donner un conseil à une entreprise ou quelqu'un qui bosse dans une entreprise qui nous écoute et qui voudrait se lancer dans... la création ou l'accompagnement dans le serious game pour une formation ou pour peu importe le sujet, ce serait quoi le conseil?
Le conseil, c'est de faire de se faire accompagner, mais des fois c'est court en fait. C'est-à-dire moi j'ai plein de gens qui viennent me voir en me disant bah je veux un jeu, et en fait ils ont pas le budget parce que c'est cher de créer un jeu, en fait on va pas se mentir, c'est du taf, bref, ça coûte de l'argent. Oui. Ils ont pas le budget et ils se sont dit un jeu de société c'est facile, et puis en fait ben non. Donc première chose, c'est ils viennent voir, mais c'est de se dire finalement je peux faire un accompagnement. Mais moi très souvent je fais un coaching de démarrage où on cadre vraiment le projet, où on donne des pistes, et en fait ils créent et on fait un audit une fois mi-projet, une fois à la fin, et c'est vachement riche pour eux parce qu'ils apprennent, ils créent eux leur, quand ils ont pas de budget en fait ils mobilisent le temps en interne, mais c'est hyper fédérateur. On parlait de cohésion, là pour le coup c'est un prétexte à la cohésion de créer quelque chose, et puis c'est leurs équipes qu'on crée, quoi. C'est un jeu en interne qui existe physiquement. On a un vrai objet. Ça, c'est une vraie jouissance. Enfin, moi, je fais ce métier, mais quand je reçois les boîtes des jeux, c'est trop kiff, quoi. Donc, de se faire accompagner, mais de pas s'imaginer faire, c'est top, mais de se dire que c'est possible si on se fait accompagner. Parce que souvent, moi, je vois des projets où ils viennent me voir, on a tout fait et on voit bien, ça marche pas. Ben, c'est plus dur de reprendre là que de se dire on fait une heure d'accompagnement au début pour se mettre sur des bons rails et puis que vous sachiez où vous allez, quoi.
C'est ça. Et du coup, l'accompagnement est flexible en fonction du niveau d'engagement et des besoins.
Ça peut aller, tu vois, là, je vais accompagner une structure où je vais faire un cadrage au début avec eux. je leur donne des billes, je fais des petites vidéos qui vont pouvoir se regarder, une heure de vidéo. On a des temps de jeu pour monter en culture ludique parce que des fois, ils ont vraiment un niveau très bas. Donc, mettre tout le monde à niveau, connaître ce que c'est que le draft, enfin voilà, des trucs un peu basiques, mais pour nous, basiques. Mais et puis après, on fait une sérieuse game jam où moi, je vais les coacher. Donc, oui, je suis co-autrice parce que finalement, je vais vraiment aiguiller la réflexion, mais ça vient d'eux. Ils sont sur un temps court de 2 jours de mobilisation, 3 jours de mobilisation. Et après, on fait un coaching hyper régulier pour que ça les oblige à bosser. Ben, en 4 mois, ils ont 3 mois, ils ont un jeu avec tout le process complet. Ils sont montés en compétences. Ils ont fait plein de trucs en commun. Ils ont un jeu qui vient de chez eux. Donc, tu vois, ça, c'est la grosse formule. Et puis, la formule light, c'est on se voit 3 fois, 1 heure, voilà. Et donc, c'est vraiment, en fait, c'est se dire que il y a plein de modalités possibles, mais que le seul truc, c'est que en faisant son jeu dans son coin, même quand on est gamer, en général, on arrive à un truc qui est pas efficace pédagogiquement parce qu'on a des angles de regard, on a des points de vigilance pédagogiques. C'est pas juste créer un jeu en fait, c'est créer un jeu qui soit efficace pour l'objectif qu'on s'est donné.
Ok.
Est-ce que tu veux nous parler du jeu, du serious game dont tu es la plus fière, celui où tu t'es dit là j'ai vraiment tapé pile, j'ai vraiment changé quelque chose?
Je sais pas si j'en ai un. Je suis jamais. Après, je me dis ah, j'aurais dû faire un truc différent.
Non, mais si t'es fière de tous tes bébés pareils, il y a pas de.
Non, je sais pas. Dans les jeux pour lesquels je suis fière, c'est le jeu dont j'ai parlé là sur Donc c'est le jeu sur les bateaux où on travaille sur les consommations d'énergie. Je suis fière d'avoir réussi à faire un jeu qui soit un jeu de stratégie vraiment. Où ils vont gérer, parce que c'est rare dans les serious games, hein. C'est pas si facile d'avoir des gens qui sont très éloignés du jeu. Ça s'adresse à des gens qui ne jouent pas, qui ont un niveau de jeu très faible. Donc réussir à leur faire faire de la gestion, vraiment. Donc ça c'est cool et ça passe crème, on va dire. Et puis un autre jeu pour lequel je trouve que je suis assez contente, c'est des jeux où bah il va y avoir ce côté militant de où j'arrive à placer et à les faire bouger sur le côté féministe, sur soit les représentations, soit on glisse des choses sur le droit du travail, etc. Dans le jeu, on arrive à poser des questions. Typiquement un jeu là, je pense à un jeu sur le droit du travail où on a réussi à conserver et à mettre des questions qui ne sont pas liées au droit du travail, mais on va dire sur l'égalité, des questions hyper touchy qu'ils voulaient pas aborder, mais sur je suis une femme, je suis pas payée le même prix que le mec qui fait le même job que moi, ou ma couleur de peau, pourquoi on a une différence de salaire, ou pourquoi moi, et toutes ces questions-là abordées dans le jeu où on sentait qu'au début ils voulaient pas y aller. Donc ça, ouais, en fait, mais c'est plutôt des petites fiertés de plein de trucs différents.
Ouais, ça, c'est des éléments dans chaque.
C'est ça.
Très bien. Et merci beaucoup. Est-ce que tu veux passer un dernier petit message ou un petit t'as une carte blanche si tu veux.
J'ai carte blanche pour dire à tous les gens que faut faire jouer vos enfants, parce que quand c'est un apprentissage de savoir jouer et de pouvoir jouer à tous les jeux qu'on aime aujourd'hui ou des gros jeux, et que c'est du temps qui est investi pour avoir des gens qui soient des citoyens beaucoup plus. En fait, ce qu'on apprend dans les jeux, c'est tous ces fameux savoir-être dont on a parlé, parce qu'on voit bien les gens dans l'univers du jeu, souvent il y a des compétences, ce qu'on appelle les soft skills, là, qui sont vachement plus développées qu'ailleurs pour côtoyer plein de milieux différents. Les soft skills sont très développés dans le monde du jeu de société, et je pense que c'est parce que on joue. Et que on apprend aussi, je pense, l'esprit critique. On développe son esprit critique dans les jeux, et que ça, on en a vraiment besoin. Donc, faisons jouer nos enfants à des jeux différents, à plein de types de jeux, parce que c'est cette richesse qui permet de développer tout ça. Donc, jouons, continuons à jouer, mais faisons jouer les jeunes pour avoir une meilleure société demain.
Eh bien, merci beaucoup, Susan.
Avec joie.
Chère auditrice, cher auditeur, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt, et surtout,
jouez bien.